Il est 17h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles, vous attendez la fumée blanche.
Et oui, car c'est le jour J en effet au Vatican. C'est aujourd'hui que débute le conclave chargé de désigner le successeur du pape François. Un premier vote est prévu ce soir. L'Inde et le Pakistan au bord de la guerre, les armées des deux puissances voisines se sont violemment bombardées, au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. Les appels à la retenue se multiplient dans le monde. Paris reçoit pour la première fois le nouveau chancelier allemand ainsi que le nouvel homme fort de la Syrie, tous deux sont reçus aujourd'hui à l'Elysée. Football, le Paris Saint-Germain contre Arsenal ce soir pour une place en finale de la Ligue des Champions. L'escalade de temps redoutée entre l'Inde et le Pakistan est en train de se produire. Fini les escarmouches, les armes lourdes sont entrées en action. New Delhi a lancé dans la nuit une série d'attaques de missiles sur son voisin. Des tirs d'artillerie ont ensuite éclaté de part et d'autre du Cachemire. Il y aurait au moins 26 morts côté pakistanais, 12 côté indien. Le Pakistan a d'ores et déjà fait savoir qu'il répondrait à ce qu'il qualifie d'acte de guerre. Daniel Valo.
Le Pakistan se réserve le droit de répondre à l'Inde au moment, à l'endroit et de la façon qu'il le souhaitera. C'est ce qu'indique le comité de sécurité nationale qui s'est réuni ce mercredi matin à Islamabad. Les autorités pakistanaises demandent donc à l'armée de prendre, je cite, les mesures nécessaires pour venger la perte des vies innocentes et cette violation flagrante de notre souveraineté. Déclaration qui fait suite à la confrontation militaire la plus grave depuis des années entre les deux pays. L'Inde ayant lancé ce qu'elle a baptisé opération Sindor, une série de frappes sur le territoire pakistanais visant, selon New Delhi, des camps de recrutement et d'entraînement terroristes. L'Inde assure que les cibles ont été choisies pour éviter tout dommage aux civils et aux infrastructures civiles, ce que réfute le Pakistan. Après cette série de tirs, des échanges d'artillerie ont éclaté tout le long de la frontière. Outre le bilan humain, le Pakistan affirme avoir abattu 5 avions indiens, dont 3 rafales, information qui n'a pas, pour le moment, été confirmée du côté indien.
Et cette crise armée, la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies, la communauté internationale les appelle à faire preuve de retenue. Selon l'ONU, le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire Inde-Pakistan. Également dans l'actualité du jour, le fameux conclave, nom donné au Vatican à ce processus électoral qui désignera le successeur du pape François. De la fumée blanche s'échappera alors d'une cheminée de la chapelle Sixtine. Les cardinaux venus du monde entier ont célébré ce matin dans la basilique Saint-Pierre la messe précédant l'ouverture du conclave. Un premier vote est prévu en fin d'après-midi. Actuellement, sur la place Saint-Pierre de Rome, fidèles et simples touristes se mélangent dans une ambiance bon enfant. Véronique Guémard a tendu son micro à Monseigneur Michel Pansard, évêque d'Évry en région parisienne. Il est ravi de vivre ce moment.
Voilà, vous avez une image du diocèse d'Évry. C'est un diocèse... Voilà. C'est un diocèse avec... une diversité de cultures, d'origines, de milieux sociaux, et puis jeunes, puisque 40% de la population a moins de 30 ans. Image de l'Église universelle, y compris. Mais voilà, il suffit pas d'être différent et d'être assis les uns à côté des autres pour que ça matche. Hein. Et donc il faut apprendre à se comprendre, à se connaître, à accepter qu'il y a des différences et donc toujours dire, mais au fait, qu'est-ce qui nous unit?
La charge du pape prochain, c'est d'unir.
C'est sa charge, c'est de travailler à l'unité, hein, à la communion dans l'Église, en acceptant que cette diversité, hein, cette communion, elle soit pas uniformité.
Et vous allez surveiller les fumées, donc.
Oui, bien sûr.
C'est notre évêque, on est là en plein conclave et on espère voir la fumée blanche avant de notre retour sur Paris.
L'évêque d'Évry, au milieu de ses proches, Monseigneur Michel Pansard. La Russie et l'Ukraine ont échangé la nuit dernière des tirs de drones et de missiles, attaques qui ont tué 2 personnes à Kiev et forcé Moscou à fermer ses principaux aéroports. De nombreux dirigeants étrangers sont attendus en Russie pour célébrer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le président chinois vient d'arriver à Moscou. À l'occasion de cet anniversaire, Vladimir Poutine a annoncé une trêve unilatérale de 3 jours à partir de demain. Et maintenant, cette visite officielle très controversée, celle que fait actuellement à Paris le nouvel homme fort de la Syrie, le président par intérim Ahmed El-Shara, reçu cet après-midi à l'Elysée par le président Macron. La France est le premier pays d'Europe à le recevoir, alors que sur place en Syrie, la transition politique est chaotique. Elle est marquée par les nombreuses violences contre les minorités alaouites et druzes. Sur les enjeux de cette visite, il faudra surtout parler économie et sanctions aux yeux d'un spécialiste, Cédric Labrousse, docteur rend à l'EHESS. Il est au micro d'Alice Froussard.
Il va falloir comprendre que l'agenda des Syriens, pour le moment, c'est qu'ils veulent une relance économique du pays. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment une attente politique à l'intérieur de la Syrie, comme nous, entre guillemets, entre acteurs occidentaux, observons ce nouveau régime en Syrie, mais il y a vraiment une attente des Syriens sur la relance économique. Et c'est probablement là-dessus que vont porter la majorité des discussions. Il y aura bien évidemment du coup une déception pour ceux qui attendent que le sujet principal soit la forme du gouvernement, soit la composition du gouvernement actuel en Syrie, soit le sort des minorités. Ça ne veut pas dire qu'on va les oublier, ça veut dire qu'on va essayer d'écouter aussi les demandes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les minorités ont subi récemment, subissent actuellement, il ne faut pas l'oublier, j'insiste, mais en même temps, elles subissent aussi la crise économique que subissent l'ensemble des Syriens. C'est vraiment le sujet qui va être abordé.
Autre visite officielle à Paris, celle du chancelier allemand. Comme le veut la tradition, le nouveau chancelier Friedrich Merz a réservé à la France son premier déplacement à l'étranger. Il a été reçu à la mi-journée par le président Macron dans un contexte de panne du couple franco-allemand. Le chancelier devait ensuite se rendre à Varsovie, autre capitale, celle de la Pologne, où il compte relancer des relations en souffrance. Les rebelles houthis font savoir qu'ils continueront de cibler les navires israéliens passant au large du Yémen, malgré le cessez-le-feu conclu avec les États-Unis. Un accord qui, dans l'État hébreu, suscite embarras et surprise. Les médias affirment qu'Israël se sent abandonné par Washington. Aujourd'hui, 7 mai, cela fait 3 ans que les Français Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris sont emprisonnés en Iran pour officiellement espionnage d'État. À l'occasion de cet anniversaire, RFI recevait ce matin Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler. Les nouvelles ne sont pas bonnes, nous a-t-elle confié. Tous deux vont mal. Les deux prisonniers sont privés de tout ou presque. On ne leur donne même pas de quoi écrire. Ce sont les deux derniers Français détenus en Iran. Alors pourquoi la situation semble figée? Élément de réponse avec Pierre-Olivier.
Ces dernières années, la France a eu jusqu'à 7 ressortissants retenus dans les geôles iraniennes. Il y a quelques semaines, le Français Olivier Grondeau a été libéré après plus de 2 ans d'emprisonnement. Selon le Quai d'Orsay, c'est le propre même de ces détentions arbitraires que de ne suivre aucune logique particulière permettant d'expliquer les raisons de la sortie d'un détenu ou d'un autre. En dehors de toute procédure judiciaire, impossible aussi d'anticiper un agenda et une éventuelle date de libération. Toujours selon le Quai d'Orsay, Téhéran voudrait aussi garder une monnaie d'échange pour faire pression sur la France dans le contexte actuel de discussions entre l'Iran, les Européens et les Américains sur la non-prolifération nucléaire. Paris l'assure, la libération de ces deux derniers prisonniers reste malgré tout sa priorité absolue. En attendant, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a redit, il n'y aura pas de levée des 11 sanctions françaises contre l'Iran tant que Cécile Kohler et Jacques Paris n'auront pas été libérés.
C'était Pierre-Olivier. En football, au programme ce soir, la seconde demi-finale retour en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain accueille au Parc des Princes les Anglais d'Arsenal. Vainqueur 1-0 au match aller, le Paris Saint-Germain a une bonne chance de se qualifier pour la finale. Le vainqueur de ce match de ce soir sera opposé en finale à l'Inter Milan. Enfin, la mort à l'âge de 84 ans d'Angelo Rinaldi. Il était à la fois écrivain, journaliste, ancien directeur du Figaro littéraire. Angelo Rinaldi, auteur d'une quinzaine de romans. Il s'était fait connaître dans les années 1980 par ses critiques acérées dans l'hebdomadaire L'Express. Et il avait été élu en 2001 à l'Académie française. Son portrait avec Edmond Sadaka.
Le métier de toujours d'Angelo Rinaldi est resté celui de journaliste. Ce natif de Bastia en Corse, fils de berger, débuta comme chroniqueur judiciaire avant de s'imposer comme une figure incontournable de la critique littéraire. Il a collaboré avec des titres prestigieux comme L'Express ou Le Figaro littéraire notamment. Angelo Rinaldi devint rapidement l'un des critiques les plus redoutés. Beaucoup lui ont reproché d'être injuste. Il est vrai qu'il n'épargnait pas même les auteurs aujourd'hui célébrés comme Kundera, Modiano ou Duras. Lui expliquait avoir toujours écrit ce qu'il pensait, ajoutant ne pas être certain d'avoir toujours raison. Son œuvre littéraire, malgré un style brillant, n'a pas obtenu la reconnaissance escomptée. Seule La Maison des Atlantes, son deuxième roman, obtint le prix Femina en 1971, alors qu'il n'avait que 31 ans. En mars dernier, était réédité un recueil de ses chroniques, Les Roses et les Épines, une sorte d'ultime hommage à son style acéré. Avec lui, la littérature française perd en tout cas l'une de ses voix les plus intransigeantes.
Edmond Sadaka, voilà qui nous amène à l'actualité culturelle avec vous, Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, et à tout à l'heure sur le Pont des Arts, c'est dans 30 secondes.